Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui sont sorties ce midi pour vous emmener au pays des tournesols, du canard et de l'armagnac, autrement dit dans le Gers, à la rencontre d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui sortent des sentiers battus et ont fait le choix des métiers de la terre et de la bouche pour nous nourrir, nous, mangeurs et mangeuses, au mieux. Il et elle sont boulangères, productrices d'huile ou chefs, à Lectoure et dans ses environs, à Jeguin, à Solomiac. Nous n'avons pu en rencontrer que 5, même si nous n'oublions pas les autres, nombreux, dont on nous a dit le plus grand bien, les restaurants crus, Jeff envoie du bois à Auch, le citrus à Condon, chez vous à Saint-Puy, les noisettes de Thomas Carayon, les légumes de la ferme de Laboux, les vinaigres du domaine de Lérial, l'ail blanc de Terres Ardentes, sans oublier l'armagnac conseillé par le dernier invité de cette émission, si vous tendez l'oreille jusqu'au bout. Première escale à la ferme de Malobric, bien connue des habitants de Lectoure, une ferme tenue par la famille Bounet, Patrice, céréalier et meunier, dont la femme Olga fait des plantes médicinales, et la sœur Pascale du pain, depuis que cet enfant du terroir est revenu sur les terres de son enfance pour donner un coup de main à son frère, Pascale Bounet.
Je suis née à Lectoure. J'y ai fait toute ma scolarité, mes amis, toute la famille est là. Et puis après, à 18 ans, je suis partie. J'ai fait une carrière professionnelle dans un tout autre domaine. Et à la veille de mes 40 ans, mon frère m'a demandé de l'aide. Alors j'ai couru, je suis là.
Il vous a demandé de l'aide parce qu'il s'était lancé dans la boulangerie. Il avait découvert ce qu'était que faire du pain à partir de sa propre farine, puisqu'il faisait déjà de la farine. Il avait besoin d'aide parce que le pain a tout de suite extrêmement bien marché auprès de la famille, auprès des amis, puis auprès d'un public qui était très demandeur de ce pain exceptionnel. Donc comme quoi, le goût et la façon dont le pain est fait ici, dans cette ferme, a parfaitement fonctionné et continue de le faire.
Bon, déjà, il y a un engouement pour, disons, ces saveurs authentiques, ces produits du terroir, le local compte, le bio aussi. Nous, on va un peu plus loin, on va jusqu'en biodynamie, mais c'est plus sur, un fonctionnement de gestion des sols, je dirais, et la bonne intention au niveau des équipes.
On peut dire que votre pain est vivant, quoi.
Ah ben ça, c'est une valeur qui est très importante pour nous. Effectivement, c'est un pain vivant. On a un levain qu'on cherche à rendre régulier, mais qui ne l'est pas, parce qu'on a un pain qui va varier sur l'année, mais aussi sur la semaine. Donc, en général, mais les pains que je réussis le plus sont plutôt du vendredi, parce que c'est un process de progression déjà sur la semaine. C'est-à-dire qu'on s'approche à chaque fois en ajustant de mieux en mieux. Le jeudi, c'est un pain où on croit qu'on a eu de la chance parce qu'on a trouvé tous les paramètres pour faire le mieux qu'on pouvait. Et le vendredi, on confirme. Donc en général, c'est comme ça, il y a une progression. Mais le pain du lundi, il est déjà bien, je veux dire. Il est déjà bien, mais on est toujours en quête de s'adapter à la météo du jour, à l'ambiance personnelle aussi, parce que ça a une incidence, je pense, sur la bonne intention, a une incidence sur ce qu'on fait. Donc un pain vivant, oui, et d'autant plus vivant, pardon, qu'il va réagir aussi en chambre de pousse, il va réagir différemment, et à la cuisson, il va réagir encore différemment.
Pain, mais aussi brioche et panettone, quand il s'agit de se rapprocher de la fin de l'année.
Exactement. Donc les pains, oui, vous l'avez dit, les brioches, parce que on est très gourmand. Comment dire, nous, le moment qu'on préfère, c'est tous les tests qu'on fait pour valider la recette avec mon frère. Et on devient tatillon sur pas mal de choses, et les gens nous le rendent bien.
Alors, quel pain vous voulez nous montrer, Pascal?
Alors, le pain que je vais vous montrer là, il s'appelle le bisou. C'est un pain de 500 grammes.
Ça me plaît bien.
Ouais. Alors, on l'appelle le bisou parce que la bise est le nom technique de la farine semi-complète. Donc, c'est un pain de 500 grammes. Il est en pavé un peu allongé. Il est grigné de 2 coups de lame. Et il y a ces bordures qui sont un peu noircies par la cuisson. Voilà, donc c'est un pain plutôt brun avec une mie aussi assez colorée. On a une acidité qui apparaît à l'odeur quand on sent la mie. Effectivement, ça ne sent pas le pain de ville, j'appelle ça plutôt. Voilà, on serait au moment de la cuisson. Il y aurait toute une autre palette à dire. Parce que y a des bruits, il y a des odeurs au moment de la cuisson et surtout aussi selon la variété de pain qu'on cuit. Par exemple, le pèlerin qui est avec des graines de lin et tournesol a vraiment une odeur de graines grillées qui fait vraiment, qui ouvre l'appétit. Il va y avoir aussi, par exemple, le seigle, c'est un autre pain, une autre farine, qui a une odeur un peu, moi j'appelle ça de cire d'abeille. Et on a toute une gamme un peu de pains spéciaux. Par exemple, les pains aux figues, le pain aux noix. On en fait un aussi avec les plantes aromatiques de ma belle-sœur, qui s'appelle le pain aux orties. Lui, il a une odeur incroyable quand il sort du four. Ça sent le vétiver. Alors, c'est complètement incroyable parce que ça sent la forêt sauvage. Enfin, vraiment, après un orage, quoi. Et j'adore cette odeur-là.
On le goûte ?
La dégustation du pain, elle peut devenir technique. Au départ, le pain, comme quand vous êtes au restaurant, en général, dans la corbeille, c'est le premier plat. C'est celui vraiment sur lequel on va commencer une conversation, on grignote. Beaucoup de gens ici vont prendre toutes les croûtes qu'on casse un petit peu au moment aussi où on tranche le pain pour les clients. Normalement, c'est un pain qu'on grignote comme ça. Nous, ici, quand c'est le moment de déjeuner, le pain, on n'a même pas de couteau. On le déchire, on le grignote. On va chercher du beurre, des pépites de chocolat, de la brioche, hop, hop, hop. Et on se fait un petit déj assez rapide, voilà.
Votre pain, vous le vendez, et vous le vendez avec autant d'amour, j'ai l'impression, que vous l'avez fait. Donc, vous nourrissez les gens avec votre pain, quoi.
Si vous voulez, nous, on est fils d'agriculteurs. Quand on sème le blé, enfin, moi, j'ai vraiment une émotion. Enfin, moi, ça me monte au cœur. Je suis vraiment attentive. J'y pense fort. Enfin, je suis contente de ce moment-là. Après, je vais voir les champs de blé, mais sur toute la saison. Alors, les épis de blé, quand ils tournent de couleur, ça me touche aussi à la saison, vers juin. Et le jour où on moissonne, je pleure d'émotion. Et le jour où mon frère m'amène la nouvelle farine, je suis excitée comme une puce parce que je vais découvrir la nouvelle récolte et il va falloir que je fasse une nouvelle recette parce qu'il faut que je m'adapte à ce nouveau millésime, disons.
Donc vous aimez votre métier, au fond ?
Je suis devenue accro à ce métier, ouais. ouais, on peut dire ça.
Merci beaucoup, Pascale Bounette. Merci. Et merci pour ce pain absolument délicieux. Pour poursuivre cette promenade gastronomique culinaire au cœur du Gers, on fait une petite halte au restaurant Racine, en compagnie du chef de ce restaurant, Racine, à Lectour, Lionel Créteur. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans ce restaurant. Très beau restaurant, avec des couleurs de terre, avec des rideaux beige, du bois, beaucoup de bois. Grand espace. C'est un espace que vous avez pensé de quelle façon ?
Ouais, on le voulait convivial. On a déménagé dans ce lieu-là parce que justement, je trouve qu'il faut de l'espace pour être au restaurant, pour avoir une intimité tout en étant vivant. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait réaménager un lieu différent et le transformer en restaurant.
Vous êtes dans le Gers, mais vous n'êtes pas du Gers vous-même, votre épouse non plus puisqu'elle est québécoise. Alors quand vous êtes arrivée dans cette région, le Gers, qu'avez-vous découvert comme spécialité, comme produit, comme alimentation particulière ?
Alors je ne voudrais pas réduire le Gers au canard et au foie gras parce qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup plus de choses, il y a plein de petits producteurs. Et en fait, je pense que les gens ne le savent pas. Je pense qu'on réduit fort au canard, au foie gras et à l'armagnac. mais en fait on peut autant avoir des produits laitiers que des noisettes dans un village juste à côté à Castet-Arouille chez la maison Carayon, autant des huiles, donc des jeunes agriculteurs qui ont décidé de transformer leur exploitation en faisant une huilerie avec des huiles de tournesol, de caméline, de colza et tout ça. Donc c'est un petit peu, j'ai l'impression que ça se modernise tout en gardant des traditions, parce que mine de rien on mange vraiment bien et les gens ont une très 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 bonne fourchette.
C'est un terroir riche ?
Très très riche. Je trouve vraiment, moi en tant que cuisinier qui venait donc de Bruxelles avec des marchés comme à Rungis, enfin, je ne comparerais pas la taille, mais où on pouvait avoir des produits de toute la France et tout ça, finalement de mon village, j'ai tout. Les poissons ne viennent pas d'ici, mais sinon la viande vient du boucher du village qui sélectionne ses vaches sur Terraube. Il fait du super porc qui vient de Bérague, donc un autre village à côté. Ma farine vient de chez notre ami Maxime Suifet. Les noisettes viennent donc de Castet-Arouille, la maison Carillon. Qu'est-ce que j'ai ? Parce que j'en ai beaucoup. Hein. Alors aussi, il y a le marché tous les vendredis ici à Lectoure, donc je vais faire mes courses au marché. Les légumes viennent des villages aux alentours. On a plusieurs maraîchers, ils me téléphonent. J'ai ça ce mois-ci. Et en fait, on crée notre menu un peu en fonction de tous ces gens.
Comment vous la pensez, votre carte ?
Alors, je veux que ce soit le plus simple possible et le plus compréhensible, ne fût-ce que dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'on va manger une échine de porc, un écrasé de pommes de terre et des choux de Bruxelles. Après, le chou de Bruxelles, il sera fait de plusieurs manières. Je fermente pour pouvoir préserver pendant les saisons, je fais sécher, je fais des poudres, je fais des condiments. Mais par exemple, si j'ai décidé que c'était un plat avec du chou de Bruxelles, en fait, on va avoir plein de choux de Bruxelles, de plein de manières. Mes fournisseurs, enfin fournisseurs plutôt, je veux dire maraîchers, qui décident plus mon expérience et mes goûts.
Comment vous avez été formé ?
Alors, donc je suis autodidacte en fait, mais j'étais petit-fils et fils de restaurateur. Je ne voulais pas être restaurateur. Puis après, j'ai dit, je veux bien, mais jamais avec ma femme. Donc en fait, j'ai tout raté ce que j'avais dit. J'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'emmenaient beaucoup au restaurant. J'ai eu une grand-mère qui m'emmenait au restaurant. Et elle m'emmenait et elle était vraiment chiante. Et donc elle me disait, là, le rognon, il y a du sang qui coule, c'est parce que l'assiette est trop chaude. Là, il y a une trace de doigt sur un verre. Ça, c'est trop salé. Le foie gras, il y a un petit peu trop d'armagnac. Et donc, je pense qu'elle m'a beaucoup formé là-dessus. Puis après, à 26 ans, j'ai décidé de faire la cuisine. Et je suis allé toquer à la porte d'un restaurant étoilé. Ma mère m'avait un petit peu pistonné. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à gravir les échelons, faire plusieurs restaurants étoilés à Bruxelles, jusqu'à arriver à un restaurant qui a été déclencheur pour moi, qui s'appelle le restaurant Boucherie à Uccle. Après ça, j'ai quitté ce restaurant, je suis allé dans un autre. Et je revenais boire un petit verre le vendredi soir dans ce restaurant, et c'est là que j'ai rencontré ma femme actuelle, en fait, qui travaillait en tant que serveuse, et elle était aussi, comment on dit, food designeuse, et voilà, et puis en fait, après ça, on est arrivé ici.
Votre épouse est donc québécoise, est-ce qu'il y a une touche du Québec, quelle est la présence de votre épouse dans votre carte ?
Ce qui est drôle, c'est donc moi, je n'ai pas fait d'études de cuisine, et je suis devenu cuisinier, et en fait, ma femme a fait d'abord des études de cuisine, et puis après, elle a fait architecture, design et tout ça. Donc, elle a autant les connaissances scolaires que culturelles et en plus les autres métiers. Et donc, en fait, on discute souvent ensemble de... Ah, elle va me dire, ma grand-mère faisait une barre aux noix. Donc, c'est actuellement un des desserts, le fromage dessert. Et donc, c'est vraiment une recette de sa grand-mère. Et donc là, chaque année, au mois de novembre, octobre, on fait un dessert à la noix... petit jeu de mots, avec la recette de sa grand-mère. Et donc souvent, elle me dit « Ah, mais moi, je me souviens, on avait ci, on avait ça. » Et en fait, on mélange nos origines, parce que moi, je suis belge, mine de rien. Là, il y a des choux de Bruxelles, mais c'est parce que j'aime ça. Mais avec les produits qu'il y a ici, les saisons d'ici, et donc on fait des mélanges, on discute ensemble de la carte. Elle me réconforte dans mes choix, ou elle me rappelle ce qu'on avait fait les années précédentes. C'est comment on change le menu régulièrement.
Quand vous dites régulièrement, c'est quasiment toutes les semaines.
Alors... pas toutes les semaines et pas tout en même temps, mais je dirais que chaque plat a une vie de 10 à 15 jours. On change en permanence. Ce qui nous permet aussi, c'est que le client puisse revenir régulièrement, que nous, on puisse ne pas rentrer dans une routine et aussi toujours développer.
Alors, qui sont-ils, ces clients qui viennent à Racine ?
Alors, c'est très, très chouette, parce qu'avec le temps, on a réussi à avoir une clientèle fidèle. Puis, je pense qu'on a réussi à conquérir, sans être conquérant, mais les gens d'ici. Donc on va avoir autant les notables que des jeunes, que des agriculteurs. En fait, je pense qu'on a réussi à avoir tout le monde. Et ça, pour moi, c'est le plus chouette et le plus agréable, c'est de pouvoir que tout le monde puisse passer un bon moment chez Racine.
Alors, vous changez tout le temps, quasiment tout le temps, vos plats, vous vous enlacez. Est-ce qu'il y en a un qui reste tout le temps à la carte? Une entrée, un plat, un dessert? Est-ce que vous avez un plat phare, Lionel Créteur?
C'est dur à dire, parce que j'arrive pas vraiment. Alors là, j'ai quelque chose qui reste à l'année, mais c'est parce que c'est une valeur sûre. C'est, en fait, je fais un foie gras. En fait, c'est un peu comme si j'avais réinterprété moi-même le foie gras du Gers, mais je vais pas faire le foie gras que mamie fait probablement mieux que moi. Donc, en fait, nous, on en fait un. Il est avec mariné avec du verjus, du floc blanc, avec amandes, pistache, poivre vert et raisin sec. Donc c'est un petit peu comme si c'était un nougat de foie gras. Et donc ça, c'est notre foie gras. On le sert avec une confiture de cynorhodon. Donc cynorhodon, c'est la plante de la rose, enfin c'est le fruit de la rose sauvage. Donc on récolte à cette période-ci, là, au mois de novembre, et on en fait une confiture. Donc voilà. Chaque année, on va récolter notre petite baie et on fait notre confiture avec.
Merci beaucoup, Lionel Créteur.
Merci à vous.
Troisième étape de ce périple dans le Gers. Nous sommes arrivés à côté de Géguin, à l'atelier des huiles. Comme son nom l'indique, évidemment, huile de tournesol, puisque le Gers est connu pour être le pays des tournesols. Et nous allons y rencontrer Élodie, qui va nous parler de ce qu'elle fait. On y va, on la rencontre.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée.
Bonjour Élodie Rousselin.
Bonjour.
Alors, l'atelier des huiles, ici dans le Gers, c'est une fabrique dans laquelle vous faites des huiles de toutes sortes, puisque je vois disposer sur votre comptoir un certain nombre de bouteilles. Mm-hmm. Je m'attendais à avoir des huiles de tournesol, puisqu'on est le pays des tournesols. Mais il n'y a pas que ça non plus.
Non.
Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous.
Alors, du tournesol, du colza, et également des huiles un peu plus méconnues, du chanvre, de la cameline, du cardamome et du lin.
Et vous avez des champs autour?
Oui, alors les champs qu'il y a autour d'ici nous appartiennent.
En bio?
En bio. Et ensuite, on cultive sur différentes parcelles qui sont 5 km autour d'ici.
Racontez-nous comment est né cet atelier, pourquoi vous êtes quelqu'un du Gers, vous êtes une habitante du Gers, native du Gers, enfin c'est votre pays.
En fait, moi je ne suis pas du tout issue du milieu agricole ni du Gers. J'ai rencontré Jérémy, mon compagnon, il y a plus de 10 ans. Et à l'époque, je travaillais dans le secteur culturel. Donc je travaillais avec une compagnie d'art de la rue. Et à force d'être beaucoup en déplacement, et donc ce rythme de vie ne me convenait plus. Et lui, il venait de passer en agriculture biologique. Et donc on s'est dit que pour boucler la boucle, il faudrait transformer une partie de sa production. Et donc c'est moi qui étais à l'initiative de cet atelier de transformation. Donc en 2019, on lance l'atelier des huiles.
Et avec Paysan Gascon.
Oui, c'est ça, Paysan Gascon, ouais. Parce que on est en plein cœur de la Gascogne et Jérémy, agriculteur de père en fils depuis on ne sait pas dire quand. Voilà, donc nous on préfère le terme de paysan à agriculteur. Voilà, on n'exploite pas la terre, on travaille avec elle.
Bon, vous nous présentez vos huiles?
Oui, avec plaisir.
Et leurs particularités?
Oui, bon, alors je disais tournesol et colza, donc des classiques. L'huile de tournesol, quand on l'achète, elle n'a aucun goût, aucun intérêt.
Souvent, elle est faite pour cuire, d'ailleurs. Hein.
Voilà, bah, alors là, on peut l'utiliser également pour cuire. C'est une huile oléique, donc il n'y a pas de problème. Elle peut monter en température jusqu'à la friture. Parce que ça, elle a du goût. Donc, elle a le goût de cette graine de tournesol qu'on mange en Espagne, les pipas, par exemple. Ensuite, l'huile de colza a du goût également, mais elle n'a pas ce goût de chou qui peut être un peu dérangeant parfois. Quand on passe à côté d'un champ de colza et qu'on sent l'odeur, il y a ce côté prononcé qui peut être déplaisant. Là, il n'y est pas. Ensuite, sur les huiles méconnues, le cardamome, donc on l'appelle un peu la plante du désert, parce qu'elle pousse très bien en terrain sec.
Et... C'est sec ici, dans le Gers?
En théorie, c'est plutôt sec. Et donc, le cartam, ça fait comme un chardon avec une jolie fleur jaune-orangée. Et la graine ressemble à celle du tournesol. Elle est blanche. Et elle a un goût assez léger qui ressemble un peu à l'huile de noisette. C'est très apprécié, notamment pour les desserts. Ça peut être très chouette sur une poire pochée, par exemple, ce genre de choses. La cameline, qui est la cousine du colza, elle a un goût qui se rapproche un peu de l'asperge ou du chou rave, c'est assez végétal. L'huile de lin, qui est connue pour être très riche en oméga-3, celle-ci a de l'amertume, donc faut aimer l'amertume. Voilà.
Et en termes de goût
si et en termes de ouais. goût, un peu ce côté amer de l'aubergine, par exemple. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Sur un poisson qui sort du four, par exemple, c'est super.
À la place d'une huile d'olive, peut-être,
ouais,
si vous dites qu'elle est un peu amère.
Ouais, à la place d'une huile d'olive. Et l'huile de chanvre aussi peut se rapprocher un peu d'une huile d'olive qui a du corps. Ça pourrait ressembler un peu à une huile de noix, un peu verte et un peu épicée en fin de bouche.
Donc là, et on voilà. a une huile de chanvre.
C'est ça, de l'huile de chanvre du Gers.
Bon, là, Élodie Rousselin, on est venu vous voir au lieu dit Saint-Paul, où se trouve l'atelier des huiles. Il faut venir ici pour pouvoir en trouver, en acheter, ou vous vendez d'abord dans la région, mais peut-être au-delà de la région. Est-ce que vous vendez sur Internet, où est-ce qu'on les trouve, comment on fait?
Alors, on peut venir à la ferme directement.
Comme nous, là.
Voilà. Les mercredis de 16h30 à 19h, idéalement, sinon sur rendez-vous. Dans les magasins du Gers, magasins bio, épicerie fine, etc. Et sur Toulouse également. On n'a pas de boutique en ligne, donc le mieux, c'est de venir en vacances dans le Gers. Voilà.
On fera ça, on dira ça à nos auditeurs, à nos voilà. auditrices. Merci beaucoup, Élodie Rousselin.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Dernière étape de notre périple gersois, on est allé jusqu'à Solomiac après avoir quitté Géguin. On était à l'atelier des huiles d'Élodie Rousselin. On est allé à Solomiac pour rencontrer le chef, nouveau chef du restaurant Le Café des Arcades. Et on est avec le chef Frédéric Medves de ce Café des Arcades, déjà très réputé. C'est pour ça qu'on a fait la route pour aller jusque chez vous. Frédéric Medves, bonjour.
Enchanté.
Racontez-nous l'aventure de ce Café des Arcades.
C'est une longue aventure. Je réfléchis depuis pas mal de temps à ce projet d'installation de restauration dans le Gers.
Pourquoi ?
Parce que moi, j'ai joué 15 ans au FCAG, donc au club phare du département à Auch. Quand on était en Pro D2. Donc j'ai ma vie de famille à Auch et les parcours de vie ont fait que je suis parti sur Toulouse. Mais je reviens ici pour me rapprocher de mes garçons.
C'est un retour aux sources.
Tout à fait.
Et vous avez ouvert avec un chef ?
Oui, donc j'ai eu l'opportunité de prendre ce superbe lieu, comme vous pouvez le voir, avec la belle pierre de Lomagne. Et sans chef, mais à l'été, j'ai su que Bastien, donc, avait son restaurant à Toulouse, il a arrêté son activité. Et de suite, j'ai sauté sur l'occasion pour lui présenter le projet. Et il m'a suivi totalement. Et voilà, c'est quelqu'un qui vient du Quercy, donc il a une sensibilité sur la cuisine de terroir. Et je savais que ça allait coller avec ce que je voulais faire ici.
Au bout de 2 mois d'existence déjà, Frédéric Medves, votre restaurant, le Café des Arcades à Solomiac, est déjà dans le guide de le fooding. Comment vous expliquez ce succès déjà ?
Déjà, on était connus, on avait nos établissements respectifs avec Bastien qui sont dans le fooding. Et je pense que ça a éveillé la curiosité que deux personnes de Toulousains, de gens de la ville, aillent dans la campagne pour créer un établissement. Et puis ça colle parfaitement à ce que recherche ce guide, c'est-à-dire de la bonne cuisine de terroir, revisiter avec des produits frais, locaux. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai une grosse cave à vin, une grosse sensibilité sur le vin, en développant le côté sud-ouest, mais aussi toutes les régions viticoles françaises. Et un gros focus aussi sur l'Armagnac. Qui est quand même produit de la région, spiritueux, voilà, sur lequel je mets le focus dessus.
Et, vous avez un producteur en particulier, Ted
oui.
Armagnac ?
Oui, ils sont à Montréal-du-Gers. Donc c'est la famille Ladevez, donc le vignoble Ladevez. Et ils ont leur boutique à Fourcès, donc j'invite tout le monde à y aller. Village magnifique.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet Armagnac ?
Ben, il est particulier parce que il y a beaucoup de cépages qui sont utilisés dans l'Armagnac, contrairement au cognac où c'est qu'un seul cépage. Et en fait, ils font des mono-distillations, c'est-à-dire qu'ils prennent un raisin, donc l'uni blanc, le colomba, la folle blanche, tous les cépages de l'Armagnac, et ils en font des millésimes. Donc c'est intéressant, c'est comme du vin, en fait, c'est la distillation avec des millésimes.
Merci beaucoup, Frédéric Medves.
Je suis Bastien Rabois, chef de cuisine donc au Café des Arcades, et je viens de Toulouse, comme Frédéric, où j'avais un restaurant qui s'appelait Miam chez Bastien.
Quelle est la différence entre ce que vous faisiez là-bas et ce que vous faites ici ? Est-ce que c'est plus centré sur les produits du Gers ici ?
Oui, on travaille bien plus les produits du Gers parce que moi, dans mon ADN, je travaille des produits locaux, d'artisans, de petits paysans. C'est pratiquement le même projet au niveau des produits, mais forcément, étant dans le Gers, on valorise nos artisans d'ici, donc le plus possible aux alentours de 15, 20, 30 km.
Ah oui, ça va pas plus loin de 30 km ?
Sur les producteurs, les maraîchers, éleveurs, ouais, on essaie d'être vertueux. Sur la pêche, c'est compliqué, mais bon. Petite Criée, Saint-Jean-de-Luz, La Rochelle, voilà.
Et le reste à la carte ?
Le reste à la carte, on va avoir les mungettes. C'est les petits haricots type tarbé, etc. Donc ça nous vient... C'est local ici. Les légumes, ça nous vient de petits maraîchers. Donc il y a Gabi qui est juste à côté. Et un couple de maraîchers qui est pareil, à côté, 5-10 km.
Est-ce que vous allez défendre une identité culinaire gersoise, locale, ou c'est la cuisine de Bastien Rabois ?
Ben, c'est les deux. Parce que ben, moi, j'aime créer tout le temps et ça fait partie de ce pourquoi je fais de la cuisine. Et en même temps, je suis d'origine paysanne. J'ai grandi gavé au canard, comme on dit, dans le Tarn-et-Garonne, mais un peu plus loin qu'ici, au nord-ouest, vers Lauzerte, Montcuq, ce coin-là. Très joli, d'ailleurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une cuisine de terroir, mais qui serait assez actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des réinterprétations alambiquées, mais c'est de prendre ce qui existe déjà, qui est tradit, on va dire, ou terroir. Il y a des gens qui disent terroiriste, par exemple. C'est une cuvée d'un vigneron de Gaillac qui a appelé ça terroiriste. Et j'aime bien cette expression. C'est de vraiment valoriser le terroir et de
Bernard
pas...
Bernard Plajol ?
Exactement, Monsieur Plajol. On en a ici. Et du coup, moi, ça m'intéresse de faire ça et après de me laisser la liberté de faire ce que je veux. J'aime bien aussi aller regarder ailleurs. J'adore la cuisine italienne qui est faite de 4 produits et c'est magique. Donc ça m'inspire beaucoup, j'hésite pas. Mais je veux m'ancrer quand même sur le territoire, c'est hyper important. Donc oui, je cuisine beaucoup plus le canard qu'avant.
Il n'y a pas que le canard, il y a aussi la tarte bourdalou qui nous attend. Oui. Donc on va y aller.
Allez-y,
régalez-vous. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et merci à Christelle, à Georges de la sublime Manufacture Royale de Lectoure pour ses conseils précieux, à Corentin Bailly pour la prise de son et à Taïsia Froidure pour la réalisation. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Excellent dimanche à l'écoute de France Culture.